Vous écoutez les podcasts Mickey vers une prise en charge personnalisée. Deux épisodes des éditions John Libé réalisés avec le soutien des laboratoires Takeda. Dans ce second épisode, le docteur Florent Gonzalez, gastro-entérologue à la Polyclinique Grand Sud à Nîmes, fait le point sur les critères de choix d'un traitement de deuxième ligne de la maladie de Crohn après échec d'un anti-TNF.
Quels sont les critères de choix d'un traitement de deuxième ligne de la maladie de Crohn après échec d'un anti-TNF-alpha? Voilà un beau sujet qu'on m'a confié. Il faut d'abord confirmer l'échec de la première ligne anti-TNF-alpha. Un diagnostic d'échec se pose en suivant une démarche en trois étapes. Tout d'abord, il faut éliminer une complication, une surinfection, une sténose. Deuxièmement, pour parler d'échec, il faut une rechute symptomatique, des douleurs, de la diarrhée, plus, j'insiste, une preuve objective de l'activité ulcéro-inflammatoire de la maladie de Crohn, CRP, calprotectine fécale ou coloscopie. La troisième étape, c'est qu'il nous faudra un dosage attestant la présence de taux sériques d'anti-TNF-alpha suffisant dans le sang et ou un échec d'une tentative d'optimisation posologique du traitement anti-TNF-alpha. Une fois posé le diagnostic d'échec d'une première ligne anti-TNF-alpha, on a le choix entre plusieurs options thérapeutiques, soit une deuxième ligne d'anti-TNF-alpha en mono ou en combothérapie avec un immunosuppresseur, soit un antimolécule d'adhésion, soit un traitement anti-IL-12 et IL-23. Aucune étude contrôlée, randomisée, en double aveugle, n'a jamais comparé ces trois classes de traitements en deuxième ligne de la maladie de Crohn. Alors comment s'en sortir? Comment guider notre choix? Eh bien, je vous ai identifié 9 critères qui vont vous aider à faire votre meilleur choix. Premièrement, le Crohn que je dois traiter est-il un Crohn compliqué? Y a-t-il une fistule, un abcès drainé, une sténose? Deuxièmement, la maladie de Crohn que je vais traiter chez mon patient s'associe-t-elle à une spondylarthrite? Troisièmement, y a-t-il une pustulose palmoplantaire associée à la première ligne d'anti-TNF-alpha? Quatrièmement, on va pouvoir céder des taux sériques d'anti-TNF-alpha et de la présence d'anticorps anti-TNF-alpha. Cinquièmement, quelle est la rapidité d'action du traitement que je vais tester? C'est-à-dire, indirectement, est-ce que mon patient est tolérant aux corticoïdes? Car si on a un traitement qui est peu incisif, dont la rapidité d'action est modeste, si la tolérance aux corticoïdes est faible, le traitement va être très difficile. Le sixième critère, c'est la tolérance au traitement, ce qui implique de connaître l'âge de mon patient, les comorbidités, les éventuels antécédents d'infections répétées sous anti-TNF-alpha ou autres maltolérances à une première ligne. Le septième critère, c'est la persistance au traitement. J'aime beaucoup ce critère car c'est un concept synthétique qui prend en compte d'une part l'efficacité à court et long terme du traitement, mais aussi les échappements d'origine immunoallergique, mais également les échappements par malobservance liés aux contraintes du traitement et aussi les arrêts pour cause d'intolérance. Huitièmement, c'est le choix du patient qui peut nous guider. L'essai ACCEPT-2, une étude française, a montré que la voie orale est préférée à la voie sous-cutanée tous les 2 mois, elle-même préférée à la sous-cutanée toutes les 2 semaines, elle-même préférée à la voie intraveineuse. Enfin, le 9e critère de choix pour une deuxième ligne au cours de la maladie de Crohn, c'est peut-être un scoop pour vous, vous n'avez peut-être pas entendu parler, c'est un score pronostique qui permet de prédire l'efficacité des traitements antimolécules d'adhésion. Reprenons tous ces critères à un. Tout d'abord, en cas de maladie de Crohn compliquée, de sténose ou de fistule ou d'abcès drainé, le choix se porte sur une deuxième ligne d'anti-TNF-alpha en combothérapie. Pourquoi? Parce que les données sur l'efficacité des autres traitements sont bien trop faibles dans cette situation clinique et les enjeux sont bien trop grands pour une improvisation. Ainsi, hormis le cas où nous avons affaire à un échec primaire de la première ligne d'anti-TNF-alpha prescrite d'emblée en combothérapie, il faudra préférer un switch vers une deuxième ligne d'anti-TNF alpha en combothérapie chez les patients atteints de maladie de Crohn compliquée. Maintenant, lorsque la maladie de Crohn est associée à une spondylarthrite ankylosante, dans cette situation, la deuxième ligne doit être un anti-TNF alpha, au mieux en combothérapie. Pourquoi? Parce que ce traitement va être à la fois efficace sur les arthralgies, les lombalgies et la maladie de Crohn. En cas de pustulose palmoplantaire liée à une intolérance à la première ligne d'anti-TNF alpha, le traitement de choix sera un anti-IL-12, IL-23, car il devrait être efficace à la fois sur la peau et sur le tube digestif. Dans les autres cas, on peut se guider grâce à l'interprétation des taux sériques d'anti-TNF alpha. Le premier cas de figure, c'est le cas de patients avec des taux effondrés d'anti-TNF alpha dans le sang, associés à un anticorps anti-TNF alpha très positif. C'est en fait un échappement lié à une immunisation contre cette première ligne d'anti-TNF alpha. Dans cette situation, le bon choix consiste à switcher vers une deuxième ligne d'anti-TNF alpha, mais en combothérapie. Une étude française, une étude réalisée à Saint-Étienne, a montré que c'est 80% de succès lorsqu'on choisit une combothérapie après une immunisation à une première ligne d'anti-TNF alpha. Cette attitude est recommandée chez le sujet jeune, sans comorbidité et n'ayant pas présenté d'infection répétée à une première ligne d'anti-TNF alpha, bien sûr, car une combothérapie associée à un immunosuppresseur à un anti-TNF alpha est de tolérance bien médiocre par rapport aux autres choix thérapeutiques disponibles. Le deuxième cas de figure consiste en l'association de taux sériques élevés d'anti-TNF, mais sans anticorps dans le sang. Dans cette situation, le meilleur choix est de changer de classe thérapeutique, ce qu'on appelle le swap, c'est-à-dire d'opter soit pour un traitement anti-molécule d'adhésion, soit pour un traitement anti-IL-12, IL-23. Alors, comment choisir entre un traitement anti-molécule d'adhésion et un traitement anti-IL-12, IL-23? Ces deux classes thérapeutiques ont une tolérance excellente. Les deux ont une persistance excellente. L'acceptabilité de l'anticorps anti-IL-12, IL-23 est un peu meilleure, d'après l'étude ACCEPT-2, car la voie sous-cutanée tous les 2 mois est préférée par nos malades à la voie sous-cutanée toutes les 2 semaines. La rapidité d'action va guider notre choix entre ces deux molécules, les anti-IL-12, IL-23 et les anti-molécules d'adhésion. D'après les études pivots, les essais UNIT et GEMINI, j'insiste en deuxième ligne de traitement, il semble qu'un traitement anti-IL-12, IL-23 offre une réponse plus rapide dès la troisième semaine de traitement, alors que c'est un peu plus lent avec l'anti-molécule d'adhésion où la significativité n'est atteinte qu'à la sixième semaine. C'est en cas d'intolérance aux corticoïdes avec une maladie très symptomatique impliquant une corticothérapie que peut-être le choix devra plutôt se porter sur un anti-IL-12, anti-IL-23. Le dernier critère de choix, c'est le plus nouveau, c'est un nouveau score pronostic qui permet d'identifier les bons répondeurs au traitement anti-molécule d'adhésion. Ce score s'appelle le CDST. Je vous préviens, il faut doser l'albuminémie et la CRP pour calculer ce score. Pour faire simple, les patients non dénutris, avec une albumine normale, jamais opérés, sans antécédent de fistule, et avec des taux peu élevés de CRP inférieurs à 10, sont de très bons candidats à un traitement anti-molécule d'adhésion qui promet d'être rapidement efficace. Il semble très important de bien identifier ces bons candidats à un traitement anti-molécule d'adhésion en deuxième ligne, car on sait que passé 2 ans d'évolution de la maladie de Crohn, et après plusieurs lignes de biothérapie ciblée, les chances de tirer bénéfice d'un traitement par anti-molécule d'adhésion deviennent très faibles. On risquerait donc, en manquant cette fenêtre de tir, de griller une cartouche très utile dans un contexte de maladie chronique qu'on ne sait pas guérir, qu'on a pour la vie, avec un nombre de traitements disponibles qui reste limité. En conclusion, le choix d'un traitement de deuxième ligne dans la maladie de Crohn est délicat. Il implique d'intégrer dans la décision des éléments cliniques, tels que la sévérité de la maladie, la présence de comorbidités, l'association à des arthralgies, etc., mais également d'intégrer des éléments biologiques avec le dosage des taux sériques d'anti-TNF alpha, mais aussi les taux d'albuminémie et de CRP. Ces deux critères sont très utiles car ils permettent de calculer le nouveau score pronostique, le CDST, un score très intéressant qui va permettre d'identifier les bons candidats à un traitement par antimolécule d'adhésion.
Retrouvez dans les podcasts Mickey vers une prise en charge personnalisée, un nouvel épisode dédié aux outils prédictifs d'aujourd'hui et de demain. Ce programme est soutenu par les laboratoires Takeda. Il est réalisé en toute indépendance et sous la seule responsabilité des auteurs et du directeur de la publication qui sont garants de l'objectivité de l'information délivrée. Ce programme a pour objectif de fournir des informations sur l'état actuel de la recherche. Les données présentées sont susceptibles de ne pas être validées par la commission d'autorisation de mise sur le marché et dans ce cas ne doivent donc pas être mises en pratique. Le docteur Florent Gonzalez déclare avoir des liens d'intérêt avec les laboratoires AbbVie, BMS, Celltrion, Ferring, Janssen, Mayoli, MSD, Pfizer, Sandoz, Takeda, Tilots Pharma, Viatris. Une production des éditions John Libbé.